Merci beaucoup en tout cas pour cette deuxième invitation, pour cette deuxième journée d'études autour du projet de Geneviève et Florent. Et donc je vais vous présenter, alors comme dit Geneviève, le cadre institutionnel à partir donc de la présentation du réseau UDPN, usage des patrimoines numérisés. Mais justement, ce qui peut être intéressant, c'est comment un cadre institutionnel va pouvoir déterminer la nécessité de construire un objectif scientifique commun et comment la question finalement de la formation pose justement un enjeu autour de une démarche réflexive autour de toutes ces expériences-là, qu'est-ce qu'on peut recenser comme acquis, comme connaissance, pour le dire rapidement, et surtout comment on peut organiser finalement tous ces éléments de connaissance issus des différents projets et tentatives dans un corps cohérent, un ensemble cohérent de connaissances. Donc alors le réseau, je vais vous faire à la fois une perspective, peut-être la première présentation que j'avais fait du réseau, donc c'était il y a un peu plus d'un an. Donc c'était, et là je vais prendre peut-être une perspective un peu plus critique et méthodologique et un peu historique pour donner finalement une sorte de récit et de recul sur cette expérience d'un réseau autour de la question des usages des patrimoines numérisés. Alors mon titre, vous voyez qu'on est passé de le réseau des usages des patrimoines numérisés finalement à la problématique quasiment finale du réseau après 3 ans de recherche en commun. Mais bon, sur la question des patrimoines numérisés, vous voyez bien sûr ce pluriel. Et la question finalement, c'est vraiment d'envisager tous les acteurs et toutes les pratiques autour de la numérisation du patrimoine et de se rendre compte que, on se rejoint totalement Geneviève, comme quoi, donc sur l'idée finalement d'un projet pluridisciplinaire, on verra justement toute la difficulté de passer du pluridisciplinaire à l'interdisciplinaire, c'est pour ça que j'ai une sorte de précaution, d'aller d'abord un projet pluridisciplinaire, interprofessionnel, intercompétence, comme tu l'as dit aussi Geneviève, et interinstitutionnel. Donc le réseau UDPN, il a été fondé en 2014, ça a commencé 2013-2014, vraiment à l'issue, c'est vraiment une sorte d'opportunité institutionnelle, qui est justement, et il faut réfléchir à ça, comment les institutions et les universités poussent au travers de financement, essayer de stimuler des recherches à la fois interdisciplinaires, en le disant rapidement, autour de nouvelles problématiques, puisque c'est bien aussi la question, je crois que la question de l'interdisciplinarité, je vais faire pour poser mon propos, c'est la question de l'interdisciplinarité, souvent dans les débuts des années 2000, a été entendue uniquement au travers de thématiques scientifiques autour de l'environnement ou de la santé. C'est-à-dire qu'il y avait un délien très serré entre intérêt public et recherche scientifique. Avec la numérisation du patrimoine, ce que je trouve très intéressant, c'est que les liens entre perspective scientifique et intérêt public, et notamment perspective scientifique en SHS et intérêt public, se sont vraiment beaucoup plus resserrés. Et donc, du coup, et ça fait aussi partie dans les textes du CNRS, du Conseil scientifique du CNRS, de 2002 à 2014, vraiment dans cette volonté institutionnelle et scientifique de resserrer justement ces liens et de ne pas réserver l'interdisciplinarité uniquement à tout ce qui est autour de sujets environnementaux ou de santé. Très bien. Donc l'enjeu du réseau UDPN à sa fondation, il y avait d'abord un objectif scientifique, c'était faire émerger un champ d'études innovant. Et aussi, à partir de ce champ d'études, de déterminer donc ces concepts et essayer d'explorer ces méthodes. Et aussi cette idée d'identification des acteurs et des pratiques. Il y a aussi la question d'un objectif organisationnel, c'est-à-dire c'est la question de réseau. Parce que finalement, une fois qu'on détermine un réseau et qu'on dit « voilà, ces gens-là vont faire partie d'un réseau », de mettre en œuvre un réseau, on se rend compte que c'est vraiment encore un pas de plus. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit au début, la question de pouvoir développer cette dynamique, en tout cas instituer et mettre en œuvre une dynamique de réseau, c'était en déterminant un objectif scientifique commun. Et je voulais commencer aussi pour faire un cadre un peu plus théorique qu'institutionnel à mon introduction, hein, en justement en citant Dominique Pestre lors d'une communication hein, en réponse à l'invitation hein, au Conseil scientifique du CNRS donc en 2002. Et c'est des choses vraiment qui, c'est un discours qui s'entend, comme je vous l'ai dit au début, beaucoup, qui concernait toutes les questions aussi environnementales, santé, sur ses premiers programmes interdisciplinaires. Mais c'est dans cette nouvelle, finalement, définition de la science et de la connaissance. Hein. Et on rentre vraiment là-dessus avec toute la question de la patrimonialisation et de la numérisation du patrimoine. Hein, c'est que vraiment, on a affaire donc à des technosavoirs, toujours précisément situés, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette idée de rapport entre théorie et technique, chose qui, par exemple, ne concernait pas forcément les littéraires, à la base comme question, alors que maintenant, un littéraire qui travaille dans le numérique est obligé, finalement, de se confronter à cette question entre théorie et technique. Voilà. Et c'est cette question, moi ce qui m'intéresse beaucoup dans la manière dont il le décrit, hein, cette idée de complexité, donc d'articulation ou de coordination, en tout cas les liens entre énoncé du savoir, savoir-faire, dispositif matériel, espace, hein, dans lesquels ils sont élaborés et aussi transmis et diffusés finalement, hein, ces technosavoirs, les modes de circulation et bien sûr les intérêts qu'ils servent. Et donc finalement, pour saisir cette complexité à laquelle on est confronté, eh bien, on est obligé de s'attacher à une enquête sur les pratiques de la numérisation du patrimoine et les pratiques d'exploitation du patrimoine numérisé, hein, et cette obligation de s'inscrire dans une démarche réflexive, hein, en envisageant donc la relation triangulaire entre la question de l'interdisciplinarité, à la fois des savoirs et des savoir-faire, la recherche fondamentale et la question de la valorisation économique. Et encore une fois, avec la question de la numérisation du patrimoine, on dépasse hein, la valorisation économique déterminée par Dominique Pestre, on va vers la valorisation scientifique et culturelle hein, aussi de ce savoir. Très bien. Donc en 2014, le contexte, voilà, ben, finalement, c'est le réseau IDP qui s'est constitué autour de l'observation d'un phénomène. C'est-à-dire ce vaste mouvement de numérisation du patrimoine et des contenus culturels qui a été amorcé, pour le dire grossièrement, un peu avant les années 2000. Et donc, à peu près les hypothèses de base, c'était donc interroger cette multiplication des entreprises de numérisation massive, hein, qui visait des objectifs de conservation, puisqu'il y avait cette espèce de leurre, on pourrait dire, hein, ou en disant pour sauvegarder. Le meilleur moyen de sauvegarder des documents et des archives, eh bien, c'est de les numériser. Maintenant, on se rend compte avec tous les problèmes de pérennité que nous pose, que peut-être notre corpus, je travaille sur des corpus de correspondance, mon corpus de correspondance du XVIIIe siècle aura finalement est plus pérenne que mon corpus de correspondance édité numériquement. Bref, hein, voilà, et toute cette question aussi de diffusion immédiate, c'est-à-dire que hein, tout le début aussi de la numérisation chez Gallica, où on mettait comme ça énormément, on numérisait pour mettre finalement, pour donner accès, et de se rendre compte que donner accès en vrac, eh ben, on ne donne pas réellement accès, hein, et toute la question finalement de l'indexation et de la documentation pour essayer d'orienter finalement et de pouvoir mettre en réseau et en relation des corpus ou des collections numérisées. Et puis il y avait quelque chose aussi, et plus le projet s'est développé au sein du réseau, on s'est rendu compte que cette distinction notionnelle qui avait été posée à la base entre patrimoine numérisé et patrimoine numérique, où au début on naviguait un peu dans un flou, et plus on avançait, plus on se rendait compte qu'elle était vraiment importante pour savoir où naviguer, et les questions étaient vraiment différentes à partir du moment où on parlait de patrimoine numérisé ou de patrimoine numérique. Puisque avec l'idée de numérisation du patrimoine, il n'y avait plus cette idée de procédure de patrimonialisation par la numérisation, par cette idée de transformation et la question d'indexation et de documentation avec le respect par rapport hein, à la source matérielle. Donc on se rendait compte que c'était finalement beaucoup plus riche et que d'aller direct dans le patrimoine numérique, c'était peut-être plus confortable, mais ça nous évitait de nous confronter à beaucoup de problèmes qui étaient pourtant importants. Et puis, il y avait donc cette question aussi d'investir les usages, hein, puisque le réseau c'est UDPN, c'est usage des patrimoines numérisés. Alors pour des gens qui viennent des SIC, des sciences de l'information et de la communication, l'usage c'est vraiment un objet qui est assez familier, pour lequel vous avez des méthodes, enfin vous êtes. Mais pour des gens, par exemple, pour personnes en sciences humaines et sociales qui ne viendraient pas des SIC, c'est vrai que la question des usages n'est pas forcément évidente d'un premier abord. Donc, mais en même temps, on va s'en rendre compte, c'est que la question des usages permettait quand même de rassembler différentes perspectives autour de la numérisation du patrimoine. Et dans une perspective, et ça c'est très intéressant, de comment les SIC aussi ont des outils qui peuvent vraiment nous aider, c'est qu'il y a cette perspective finalement descriptive, pragmatique et technique. Et à partir de la notion des usages, on se rend compte que finalement ça peut être utile à tous dans la perspective de gestion de projet et dans l'idée de développer ou en tout cas d'établir une méthodologie de gestion de projet de numérisation du patrimoine. Et puis d'envisager cette numérisation du patrimoine avec ses rapports, finalement sinon toute seule ça ne veut pas dire grand chose, avec la question de la médiation ou de la médiatisation, ou alors et de la valorisation et de la patrimonialisation. Très bien. Donc rapidement, alors ça il nous a pas fallu beaucoup de temps pour établir ça, mais bon c'était un premier pas, hein, c'est qu'il y avait autour donc de ces le réseau IDP, alors vous voyez là il y a un problème dans ma présentation, voilà, ouais, je reviendrai après. C'est quoi le réseau IDPN finalement, vous voyez, c'est 16 projets, 21 chercheurs, 4 universités, et il y avait vraiment deux perspectives, c'est-à-dire qu'une démarche de recherche un peu exploratoire où chacun, à travers la numérisation de corpus, ou en littérature, ou en histoire, ou en esthétique. Donc il y avait cette idée de chacun comme une idée de recherche exploratoire avec des retours d'expérience sur ces projets de numérisation du patrimoine. Mais immédiatement, cette recherche exploratoire s'est doublée d'une posture méthodologique qui là était transversale au sein du réseau, et là on a pu mettre en place une dynamique de réseau, et autour donc notamment de 4 types d'actions collectives, c'est-à-dire une collection éditoriale, c'est-à-dire produire finalement à partir de ces projets de recherche, de là aussi faire une sorte de recensement de ce qui pouvait être intéressant à retenir et à diffuser, des séminaires, des journées d'études et des écoles d'été. Ok. Et donc, je reprends là, et donc c'était 16 projets donc, qui s'ancraient dans une histoire institutionnelle et scientifique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils avaient été déjà un peu amorcés dans des départements, un peu de manière isolée, et là c'était le moment de le mettre ensemble. Alors il y avait différents aussi niveaux, c'est-à-dire qu'il y en avait qui commençaient à peine, d'autres qui étaient plus évolués. Hein, voilà. Mais ça nous permettait finalement de rassembler autour de ces 16 projets, finalement, différentes perspectives, et à la fois sur le patrimoine et sur le numérique, et sur les procédures pratiques et politiques de patrimonialisation et de numérisation, en exploitant aussi ce qui était assez intéressant, c'est une sorte de représentativité du réseau à partir des matériaux qui sont exploités, que ce soit des corpus textuels, des images, des vidéos comme patrimoine, et aussi la question des enquêtes, parce qu'il y a toute la question aussi avec les enquêtes de constitution d'un patrimoine scientifique qui est en train de se faire. Voilà. Et l'idée de aussi, au sein du réseau, de réaliser et de concevoir des outils, avec cette question donc d'envisager différents usages. Donc rapidement, je reviens là, on a pu voir qu'au sein de ces 16 projets, il y avait 4 types d'usages qu'on pouvait faire de ces patrimoines numérisés. Les usages scientifiques, pédagogiques, artistiques et culturels. Voilà. Mais immédiatement, on s'est rendu compte que l'environnement numérique, le milieu numérique, obligeait d'envisager la coordination. C'est-à-dire que même on a rencontré lors d'une école d'été à Athènes, par exemple, des collègues grecs en histoire des mathématiques qui veulent monter une bibliothèque virtuelle du corpus de textes. Et de dire à ses collègues, même si vous voulez monter ce projet numérique uniquement pour servir vos objectifs scientifiques, et que vous n'avez pas encore pensé à la question du public ou des usages, à partir du moment où c'est en accès, il faut penser les deux à la fois, à la question de l'usage scientifique et à la question de l'usage pédagogique, artistique et culturel. Et vous voyez là comment dans cette idée de coordination des usages, on envoie directement sur la question de la médiation et de la valorisation de la recherche, de ces matériaux, de ces résultats et de ces méthodes. Ok. Donc, et aussi ce qui a été très utile pour le réseau, c'est que finalement ce questionnement centré autour des usages a permis la mise en réseau, pas seulement de ces scientifiques, mais aussi de tous ces acteurs, en fait, de différents types d'acteurs, de préoccupations scientifiques et institutionnelles. par exemple, aussi sont rentrés. C'est-à-dire que le réseau n'est pas uniquement constitué, au début, il était constitué essentiellement de chercheurs. Et puis, on s'est rendu compte, comme Richard Walter, voilà, hein, comment un ingénieur, finalement, de recherche est déterminant, hein, justement, pour créer cette coordination pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Voilà. Et donc, les activités, on s'est rendu compte aussi que les activités scientifiques du réseau devaient, hein, être orientées vers tous les acteurs de la numérisation du patrimoine et vers tous les usagers du patrimoine numérisé. Donc, les impacts, par contre, je n'ai pas du tout suivi le temps. Il me reste combien de temps?
Il n'y a plus encore de temps.
Il n'y a plus de temps? Ok.
Ça bon, dépend, encore 5 minutes.
Ça va, c'est bien. Alors, je vais très rapidement. Ouais. Bref, hein. Donc, le premier résultat de la mise en réseau des projets, hein, c'était d'établir finalement ce recensement et cette typologie des usages. Mais est-ce qu'il y a été... on s'est rendu compte tout de suite que usage, c'était à la fois bien pratique et bien clair pour déterminer en termes de gestion de projet, mais que, et dans cette idée de coordination des usages, on était obligé d'investir la question des pratiques. Parce que finalement, dans nos pratiques, on n'est jamais, et même un scientifique, ne fait jamais que d'un usage scientifique d'un patrimoine numérisé. On a toujours un abord, finalement, plus à la fois plus flou, moins informé, et on est à la fois un tour à tour, finalement, et le public large ou scientifique. Donc, autour de la question des pratiques, on arrivait à rassembler et cette question, finalement, de pluridisciplinarité, d'intercompétence, hein, et de différence entre métier et public. Très bien. Voilà. Alors, l'idée, c'est que on a... alors c'est pour ça, pour vous donner juste, alors c'est pas pour dire comment on fait, mais vous voyez même l'évolution, c'est-à-dire 2015-2016, on a fait un séminaire qui nous a permis justement de faire une sorte d'enquête aussi, hein, autour de la différence, donc, et de faire une sorte de recensement sur la nature des patrimoines qui étaient numérisés, sur les types d'usages. Et vous voyez, 2016-2017, hein, on est passé, vraiment, alors bon, utilisation-usage, mais vraiment, on est plus passé à la question des usagers, mais vraiment l'idée d'acteur. Hein, et que même le public, finalement, il est acteur de la numérisation, en tout cas de cette patrimonialisation en environnement numérique, hein, et en le disant rapidement, tout ce qui est la question de la collaboration, du crowdsourcing, hein, la documentation. Ouais. Et toujours avec ces rapports entre conservation, médiation, éducation, création et recherche. Et ces rapports entre conservation, médiation, éducation, création et recherche correspondent aux rapports qui ont été établis entre usage scientifique, culturel, pédagogique et artistique, qui est d'ailleurs élément très important. Donc nous sommes allés vers, à partir d'une thématique commune, l'enjeu c'était donc d'avoir une problématique et un objectif commun. Et alors, ça c'est des journées d'études qui représentent là plus le côté pas recensement, mais démarche réflexive du réseau. Voilà, donc nouvelle représentation, nouveaux usages en 2015. Hein. La question en 2016, il fallait vraiment se poser la question de l'interdisciplinarité, si elle était réelle ou non. Hein. Et on se rendait bien compte là, la difficulté finalement des conditions de mise en œuvre d'une interdisciplinarité. Et une interdisciplinarité par rapport à quoi? Par rapport aux objets, c'est-à-dire que voilà, ou par rapport aux méthodes. Et c'est vrai que, hein, en conclusion, dans le niveau des sciences humaines et sociales, on va plus vers une interdisciplinarité, c'est-à-dire grâce aux méthodes, c'est-à-dire que c'est les outils qui sont interdisciplinaires, hein, donc comme les plateformes. Hein, et c'est par cet usage de méthodes, par exemple d'une méthode, d'un littéraire, d'un outil finalement sur le numérique, d'un littéraire par un historien, que se fait finalement l'interdisciplinarité, plus par des pratiques autour de mêmes méthodes que des disciplines qui se rassemblent parce que la complexité d'un objet l'exige. Voilà. Et donc, l'idée finalement, donc en juin 2017, hein, on avait fait une journée d'études et qu'on avait appelé vraiment donc objectif formation. Et vous voyez que vraiment, donc des études d'usage à la conception de formation, de dire voilà, eh ben, ça fait 2 ans qu'on mène une recherche, et qu'est-ce qui peut être utile maintenant aux autres? Et ce n'était pas forcément pour faire une formation et une grande générosité scientifique et d'éclairer, voilà, non, pas du tout. C'est vraiment comme une posture stratégique pour nous-mêmes, par exemple chercheurs au sein de projets scientifiques, de réfléchir à finalement la valeur des propositions issues de nos recherches, de nos méthodes, et de dire bah, qu'est-ce qui peut être utile à l'ensemble de la communauté et qu'est-ce qui peut, et comment le transformer, le nettoyer, le rendre plus clair et mieux organisé pour pouvoir le transmettre. Voilà. Et c'était vraiment donc dans l'idée de stratégie scientifique, donc de développement et de précision, parce que du côté un peu flou, les usages des patrimoines numérisés, hein, d'aller... Donc on a mis en place finalement 4 équipes à partir... Donc tout ça, ça prend cher, on pourrait dire. En tout cas, ça se réalise autour, par exemple, de la réponse d'appel à projet en commun. C'est-à-dire que quand on répond à un appel à projet, hein, on ne pouvait pas dire, bah voilà, on est 16 projets, on travaille autour d'eux. Voilà, non, non. C'est que, notamment dans l'ANR, hein, il faut vraiment un objectif scientifique. C'est vraiment... Après, il y a des impacts sociétaux qui sont décisifs, mais l'important, c'est quand même l'objectif scientifique. Donc, finalement, à partir de ces 16 projets autour d'une thématique, on a construit 4 problématiques. Hein. Donc, et en voulant voilà, créer une dynamique interdisciplinaire. Donc, il y avait une première équipe, donc patrimonialisation, médiatisation et valorisation. Je ne reviens pas sur les rapports, parce que j'ai, voilà. Et on s'en rendait compte que là, du coup, il y avait vraiment une synergie, en tout cas interdisciplinaire. Voilà. Peut-être qu'elle pourrait amener vers de l'interdisciplinarité, cette synergie, entre sciences de l'information et de la communication, misologie, ingénierie, études d'usage. Deuxième équipe, hein, c'est la question autour de l'éditorialisation. C'est recherche et patrimoine numérique, et l'idée que l'éditorialisation, c'est à la fois de... ça reprend toutes les problématiques, finalement, éditoriales, en tout cas de l'édition et de la diffusion, hein, numérisation, exploitation, préservation, mais il y a l'idée aussi de l'exploitation scientifique en environnement numérique. C'est-à-dire qu'on est au-delà de la diffusion, et on voit... alors, j'ai Manuel devant moi, donc j'y pense, mais la plateforme IMAN, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si on regarde le développement, la plateforme IMAN, qui est une plateforme d'édition, hein, de manuscrits, à la base, qui était faite comme ça, et en l'espace de 2 ans, elle a énormément évolué, parce que c'était pas seulement de donner accès ou de donner à lire, hein, mais il y a cette idée aussi que ça doit, les chercheurs ont demandé à la plateforme de développer un outil qui permette aussi l'exploitation scientifique en environnement numérique. C'est-à-dire que le numérique n'est plus une vitrine, mais c'est vraiment un outil, et en tout cas un environnement de recherche. Donc là, donc, ça concerne cette partie-là beaucoup plus les corpus textuels, et c'est vrai que c'est à partir de ce matériau, de ce type de patrimoine, qu'on a le plus de recul, et du coup de recul méthodologique, et qu'on peut commencer finalement à... recenser et organiser un certain nombre de propositions afin de pouvoir former un enseignement, en tout cas une formation. Voilà. Voilà, est-ce que j'ai un rapport entre disciplines en investissant les usages d'un même dispositif technique au sein de protocoles méthodologiques, voilà, historiques, littéraires, linguistiques. Hein. Alors donc c'est la synergie entre épistémologie, littérature, linguistique, histoire, histoire des sciences et des techniques et développement de plateformes. Hein. Là aussi la question de gestion de projet. Et désolé, DPN est là, bonjour. Et essayer, hein, voilà, de ce que j'ai, donc de développer des dynamiques interdisciplinaires avec la mutualisation des outils techniques. Donc, ensuite, une quatrième problématique. Donc, vous voyez, à partir de cette thématique large de la question des usages du patrimoine numérisé. Hein, donc là, où vraiment, alors, notamment dans cet axe-là, c'est très important de faire la distinction entre patrimoine numérisé et patrimoine numérique, et toute la question de la création, hein, autour des sources visuelles, sonores et des pratiques d'archivage des arts. Alors, toute la question des usages artistiques, et ce qui amène, on se rend compte au sein du réseau que c'est très fécond finalement, pour essayer de concevoir et d'imaginer de nouveaux usages, hein, finalement, mais dans des préoccupations scientifiques. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a un vrai axe d'innovation. Et ensuite, un dernier, parce que ça, on n'en a pas encore assez parlé, hein, mais c'est toute la question des données. Hein. Et ça aussi, c'est une problématique absolument transversale, parce qu'on est bien dans une transformation du patrimoine, la numérisation du patrimoine. Finalement, c'est une transformation du patrimoine en données. Et finalement, qui est plus exploité en environnement numérique, c'est plus les données patrimoniales que le patrimoine lui-même. Hein. Vous voyez bien que dans cette idée-là, du coup, on garde la distinction patrimoine numérisé, patrimoine numérique, on garde du coup aussi la question de cette procédure de transformation du patrimoine en données. Hein. Et ce qui est très important sur l'idée de production de données, de savoir comment est-ce qu'on va l'exploiter, hein, et pouvoir l'exploiter et pouvoir construire de nouvelles problématiques scientifiques avec ces données patrimoniales et culturelles. Ok. Voilà. Donc le dernier, donc finalement, et je vais terminer comme ça rapidement ce que j'ai déjà dit, c'est fini. Voilà. On se rend compte que le plus important, finalement, c'était pas aller sur les usages, mais aller justement vers une étude systématique des pratiques, hein, et notamment en reprenant la méthode de l'enquête des SIC, hein, voilà, de peut-être aussi de voir comment ces méthodes même des SIC peuvent être perfectionnées quand elles sont empruntées, hein, par d'autres, quand elles sont empruntées pour servir un objectif scientifique plus large. Voilà. Et maintenant, j'ai terminé.
Merci.